Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti!
La bise automnale étant venue, on va faire le point sur la rentrée scolaire mouvementée qui vient de s'écouler. Entre tenue républicaine, rappel à l'ordre, slut-shaming et culture du viol, puisque le corps des jeunes filles a été au centre d'une controverse dans la sphère publique. Alors, on leur a demandé comment elles l'avaient vécu et on va en parler avec Pauline. Salut!
Salut!
Ça va?
Bah écoute, ça va, j'ai mon premier livre qui sort bientôt le 30 octobre, youpi,
yeah,
en plein couvre-feu. Donc c'est Vilaine Fille chez Anne Carrière sur des histoires de travailleuses du sexe et de clientes du travail sexuel. Oui, ça existe. Et c'est aussi une réflexion sur les représentations médiatiques de la prostitution. Donc voilà.
Super.
Et toi?
Non, moi j'ai absolument pas d'actu, j'ai juste envie de partir loin du couvre-feu. Voilà, alors est-ce qu'il y a des news féministes en ce moment?
Oui, je voulais revenir sur une news peut-être un peu de niche, mais qui est une avancée pour nous en tout cas et pour d'autres femmes. Donc les journalistes pigistes vont enfin avoir un accès au congé maternité aligné sur celui des journalistes en poste. Dit comme ça, ça paraît hallucinant en fait que ce ne soit pas le cas, donc il était temps. Et en gros, la Caisse nationale d'assurance maladie a donné son feu vert début octobre pour un meilleur accès des pigistes aux indemnités de la sécurité sociale. Parce qu'en fait, avant, les journalistes, donc comme nous, rémunérés à la pige, à l'article par exemple, devaient justifier des revenus beaucoup plus élevés en fait que les permanents des rédactions pour y avoir droit. Alors qu'on sait justement que les pigistes sont plus précaires et comptent notamment beaucoup de femmes. Donc voilà, ça c'est la minute pigiste.
Ouais, c'est incroyable parce que le congé maternité, c'est quand même censé être un droit universel, quoi. Donc là, on a vu que ça ne s'appliquait pas à toutes les femmes. Il ne faut pas oublier que ces jours-ci, MeToo fête ses 3 ans, puisque c'était en octobre 2017 que l'article du New York Times sur Harvey Weinstein était sorti.
Dear Harvey, no matter what lies you tell yourself, you did this.
Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Et alors pour parler justement du corps des jeunes filles, de crop top, etc. Depuis la rentrée, on a eu droit à une belle actualité concernant le contrôle du corps des femmes. Par exemple, en septembre, une étudiante qui s'appelle Jeanne a été interdite d'entrer au musée d'Orsay à cause de son décolleté jugé provocant, ce qui a poussé l'établissement culturel à présenter des excuses publiques. Cet été, une jeune femme noire et créatrice de mode, Océane Nélien, s'est aussi faite refuser l'entrée au Louvre à cause de sa tenue, encore une fois. Une vigile à l'entrée lui a dit que son haut n'allait pas. Une responsable lui a dit qu'elle pouvait entrer en se couvrant avec un châle. Et plus tard, elle a organisé un défilé dans le Louvre. Elle a marché en soutien-gorge dans le musée pour protester contre ce qui lui est arrivé.
Le 10 juillet 2020, je suis partie au Louvre avec des amis. Donc on se présente, on arrive juste à l'entrée, en fait, où la dame nous regarde nos tickets. Là, pas de bonjour, rien du tout. Et elle me regarde et me dit « Vous, vous rentrez pas, vous allez vous acheter un pull. » Je la regarde, je rigole et là, je lui dis « Excusez-moi, déjà bonjour. Et qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne pourrais pas rentrer ?» Là, elle me regarde et me dit « Votre tenue, elle va pas. » Donc la dame se retourne, elle se met à peut-être à 2 mètres de nous. Et là, en fait, elle me prend en photo. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est ouais, sortir mon téléphone.
Et vu comment je suis habillée, elles viennent de me dire comme quoi que je pouvais pas rentrer parce que j'étais habillée comme ça. C'est du n'importe quoi.
Cet été, des femmes topless ont également été réprimandées, sans parler des femmes voilées qui, elles aussi, sont stigmatisées. C'était le cas, par exemple, de Mariam Poujetou, qui est vice-présidente du syndicat étudiant l'UNEF. Et lors d'une commission d'enquête à l'Assemblée où elle était présente, plusieurs élus ont quitté la pièce pour protester contre sa présence. Donc c'est vraiment lunaire. D'autant, on le rappelle, que les signes religieux des personnes auditionnées ne sont absolument pas interdits.
C'est clair. Mais ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, et c'est un sujet qui a tristement colonisé l'actualité ces dernières semaines, c'est donc le contrôle du corps des jeunes filles en milieu scolaire et le fait qu'apparemment, beaucoup de Français ont un avis sur ce qu'elles devraient porter, sur leur attitude ou sur leur supposée propension à déconcentrer les hommes. Donc okay. Vraiment, j'aurais aimé me dire qu'on n'aurait jamais à aborder ce sujet en ces termes dans Quoi de Meuf, mais malheureusement, c'est de ça qu'on parle. Donc, pour reprendre un peu cette polémique, en plusieurs actes, je suis déjà fatiguée, non je rigole, faire un petit rappel des faits. Donc oui, à la rentrée en septembre, plusieurs jeunes femmes ont dénoncé en fait les règlements intérieurs et les remarques sexistes dans leur collège et lycée sur leur tenue jugée incorrecte, entre guillemets, par le corps enseignant ou par le personnel de l'établissement. Donc on a eu des témoignages de parents, de collégiennes, de lycéennes qui se sont multipliés.
Tout récemment, juste après la rentrée scolaire, il est devenu un symbole, un objet qui dit beaucoup plus que lui-même. L'emblème d'un mouvement né au lycée Édouard Branly de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais le 10 septembre 2020. Ce jour-là, une surveillante veut sanctionner une élève pour une tenue jugée un peu trop déshabillée. Elle sous-entend qu'il y aurait là un signe de disponibilité sexuelle inappropriée. Il va suffire d'un tweet, plusieurs milliers de fois relayé sur les réseaux sociaux, pour mettre le feu aux poudres de la colère des lycéennes.
Pour citer quelques exemples, il y en a beaucoup. À Belfort, un prof a dit à une élève que son décolleté était trop voyant, que sa tenue était vulgaire, qu'il ne comprenait pas comment on avait pu la laisser entrer comme ça. Dans une commune des Bouches-du-Rhône, une jeune fille de 13 ans s'est vue menacée d'heures de colle à cause de son short. Dans l'Essonne, la mère d'une lycéenne a posté une photo de sa fille en disant qu'on lui avait demandé de baisser sa jupe pour aller en cours. Oui, on lui avait demandé de rajuster sa jupe pour qu'elle soit plus basse sur ses cuisses, en gros. Il y a eu énormément d'exemples comme ça. Il y a certaines jeunes femmes qui ont dit avoir carrément été collées ou renvoyées chez elles pour se changer. Et il y a notamment eu beaucoup de témoignages en fait sur le réseau social TikTok où beaucoup d'internautes en ont parlé.
Aujourd'hui, c'est la journée des réflexions. On m'a demandé de me changer parce que j'étais dans une tenue beaucoup trop vulgaire.
Alors moi, j'ai eu des réflexions par rapport à comment mon t-shirt n'était pas adapté, que c'était pas pour aller à la plage, que c'était un bout de tissu déchiré. Alors
On m'a dit que c'était trop court et que c'était inapproprié.
On m'a dit que c'était trop court, que c'était trop vulgaire et que c'était pas probable sous vêtements ou les côtés du
Alors moi, on m'a fait la réflexion que c'était pas une tenue adaptée pour le travail et que si j'avais envie d'enfreindre les règles, que je prenais la porte tout simplement.
Moi, ce matin, on m'a fait une remarque sur parce qu'on voit les sous-vêtements et aussi sur les jeans à trous parce que c'est trop vulgaire et du coup, il est scratch.
Franchement, c'est beau de voir que c'est une priorité à l'heure de la pandémie mondiale, de l'enseignement à distance, du chômage de masse, etc., etc. C'est vraiment très touchant. D'ailleurs, l'humoriste Guillaume Meurice s'en est d'ailleurs gentiment moqué sur France Inter.
Vous parliez de vaccin, moi je suis un petit peu emmerdé parce que je dois vous annoncer un truc, j'ai un des symptômes du Covid, la perte de goût. Alors ça concerne uniquement le goût vestimentaire, mais quand même ça dure depuis quelques années, surtout qu'en ce moment il y a gros sujet textile quoi. Surtout, alors vous les meufs, vous faites n'importe quoi, soit vous êtes à poil au musée d'Orsay, soit il y a trop de tissu sur votre tête à l'Assemblée. À un moment donné, il faut choisir. Et l'école, c'est le bordel à l'école. Blanquer, il a dit ce matin, il faut s'habiller de manière républicaine. Alors, ça veut dire, moi, je ne sais pas, parce que j'y connais rien, de toute façon, en textile. Le pantacourt, est-ce que c'est républicain ?
Et alors, en réaction à toutes ces joyeusetés, des collégiennes et des lycéennes ont décidé de poster des photos d'elles se rendant en cours avec les vêtements incriminés, donc jupe, décolleté, crop top et autres débardeurs, sous le hashtag lundi 14 septembre ou encore balance ton bahut, pour dénoncer donc le sexisme en milieu scolaire. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a soutenu mordicus les établissements en déclarant, je cite, qu'il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien.
L'école n'est pas un lieu comme les autres. Vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage ou comme vous allez en boîte de nuit. Vous allez à l'école dans une tenue correcte. Par exemple, bon là, on vient pas à l'école, on vient pas au collège en short, sauf pour faire de l'éducation physique
ou
et sportive.
Ou avec une casquette ou avec la capuche.
Ça vaut pour un garçon comme pour une fille.
Donc on se demande ce qu'est cette norme en fait, par qui elle est fixée et quelles sont ses limites. Et le président Macron a quant à lui parlé de bon sens. Voilà, donc ce serait a priori quelque chose de naturel, qui ne vaudrait peut-être pas la peine d'être débattu. Sauf qu'évidemment, les termes de Blanquer ont été abondamment commentés et critiqués. On s'est demandé qu'est-ce qu'une tenue républicaine ? Est-ce que ce ne serait pas juste un mot valise ou un écran de fumée pour détourner l'attention de la pandémie ? Voilà, on va se poser la question.
D'ailleurs, je crois que Guillaume Meurice avait dit que, en guise de tenue républicaine, lui, il viendrait à l'école en slip bleu-blanc-rouge. Ouais. Donc, après cet épisode, on a eu droit à un sondage sur les tenues vestimentaires des jeunes filles mené par l'IFOP et paru dans le magazine Marianne.
De mieux en mieux.
Voilà, sondage qui est venu nous achever en posant cette question aux sondés. Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement ? Et donc là, le sondage listait, par exemple, nos bras, donc l'absence de soutien-gorge, le décolleté, le crop top, etc. Le tout agrémenté d'une très belle iconographie avec une grosse poitrine et un ventre bien dénudé en première page de l'étude. C'est pas mal. Conclusion, 2 Français sur 3 se prononcent pour une interdiction des hauts sans soutien-gorge. au travers duquel la pointe des tétons est visible, c'est précisé, et 62% pour celle des décolletés plongeants. Donc, outre la nausée provoquée par ces résultats, c'est surtout l'intention d'un tel sondage qui a choqué, le sexisme de la formulation de la question et aussi de l'iconographie, et le simple fait de demander en fait si les filles avaient le droit de s'habiller comme elles voulaient, comme s'il s'agissait d'un sujet à débat, alors qu'on parle d'un droit, comme l'a rappelé Titu Lecoq dans sa newsletter sur Slate.
On aimerait bien que les enseignants et les surveillants mettent autant de zèle, par exemple, à enseigner l'éducation sexuelle, qu'à aller vérifier et millimétrer qui porte un soutien-gorge ou pas, et à partir de quelle taille de poitrine il faut porter un soutien-gorge.
Non, c'est clair, surtout que la défense dans les médias, par exemple, des proviseurs, c'est de dire que, en fait, on prépare les jeunes au monde du travail de demain, et donc il faut leur apprendre à porter des tenues décentes. Franchement, personne ne met la même énergie à enseigner, par exemple, la lutte contre les stéréotypes ou l'éducation à la sexualité. C'est vraiment deux poids, deux mesures concernant ce sujet. Et d'ailleurs, donc, l'association de femmes journalistes Prenons la Une, dont on fait partie toutes les deux, a dénoncé le fait que dans un contexte où la culture du viol est encore présente, cette question donc, de ce sondage résonne comme une provocation et pas comme un fait neutre. Et d'ailleurs, cette association a rappelé que la culture du viol contribue à ce que les victimes de violences sexuelles se sentent coupables pour ce qu'elles ont subi et que ça déresponsabilise les auteurs des faits. Et donc tout ça découle en fait d'un même système. Et souvent en fait les tenues des femmes pour responsables de ce qu'elles subissent, et ce genre de sondage n'aide pas.
Oui, parce que vraiment se focaliser sur les tenues des femmes, ça invisibilise vraiment le fait qu'il faille se focaliser sur l'origine des violences. Donc en fait ça nous empêche d'avoir des débats sur ces questions-là. Donc c'est quand même finalement, c'est pas futile en fait comme considération, et ça a vraiment un enjeu social, notamment pour la compréhension des violences et des violences sexuelles, puisque là c'est vraiment une mauvaise interprétation qui en est faite. Et alors pour donner d'autres exemples, déjà cet été, il y avait eu des précédents dans le journal Var Matin, une jeune femme dit avoir été refoulée d'un supermarché carrément à cause de son haut, donc en plein été. Le problème c'est qu'il y a aussi des récupérations racistes ou islamophobes par exemple, puisque Nadine Morano a demandé dans un tweet de quelle confession était le vigile qui lui a interdit l'entrée, alors que c'est évidemment pas du tout le sujet, on y reviendra, puisque le contrôle des corps peut venir de n'importe où. Et ça pose aussi la question des illustrations dans la presse, puisque dans cet article, la jeune femme pose avec la tenue incriminée, qui est donc un débardeur échancré, tout comme la jeune femme du musée d'Orsay. En fait, il y a une incitation qui pousse les femmes qui vivent ces discriminations à montrer les vêtements qui ont été jugés provoquants, parce qu'elles ont intériorisé qu'elles devaient se justifier en fait, de leur attitude.
Ouais, je trouve que ça pose la responsabilité aussi des médias, qui est de, est-ce qu'il faut informer en montrant la tenue, ou alors est-ce que, en fait, c'est pas le sujet, et en fait c'est pas du tout obligatoire, et surtout comment tu fais poser la personne, est-ce que tu la sexualises dans les photos qui accompagnent l'article, enfin en fait il y a une vraie responsabilité du côté des médias aussi.
Oui, ces jours-ci même la Finlande, hélas, même la Scandinavie est touchée par cette épidémie de conneries, puisque le décolleté de la première ministre a fait polémique, donc voilà, on regrette vraiment ces débats au ras du réel.
Enfin.
Mais alors rappelle-nous, qu'est-ce exactement qu'un crop top, puisque je pense que des gens, notamment mes parents, ne savent pas de quoi il s'agit. On dit également chandail bedaine en québécois, ce qui est quand même une information à retenir.
Bah, on en vient au cœur du sujet de cet épisode, c'est quand même passionnant. Donc le crop top, c'est littéralement un haut coupé qui dévoile en fait le ventre et le nombril, par exemple. Longtemps, ça a été un t-shirt utilisé par les sportifs comme les joueurs de football américains pour ne pas avoir trop chaud, ça on le sait moins. Mais en fait, en Occident, il a été porté publiquement donc à la fin du 19e siècle par des danseuses d'origine égyptienne qui se produisaient à Chicago. Donc ça a été une occurrence aux États-Unis. Et puis en fait, le crop top, il s'est démocratisé au fil du temps, notamment avec l'évolution du costume de bain, hein, du maillot de bain, au XXe siècle. Et il connaît ensuite plusieurs revivals en suivant les tendances. Donc, c'est raconté dans un article de M Le Monde. Ça fait aussi le bonheur des youtubeuses qu'on a trouvé un tuto crop top.
Because let's be honest, in seventh grade, when I saw girls with crop tops, I was like, slut. So it doesn't have to be like that. You can dress totally cute and wear a crop top and not look like you're selling your body.
Et je voulais ajouter que c'est l'occasion de rappeler que ce qui est jugé indécent ou érotique ou vulgaire ou dénudé est situé dans le temps et géographiquement. Par exemple, montrer son nombril dans certains pays, ça ne pose aucun problème. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs l'autrice spécialiste de la mode Yvanne Jacob dans un article dans Slate sur la polémique, qui dit qu'en fait, avant le XXe siècle, on ne montrait absolument pas son nombril au quotidien en Occident, alors qu'en Inde, par exemple, on dévoile son ventre depuis des siècles. Voilà. Et il y avait une expo qui s'appelle « Tenue correcte exigée » qui racontait aussi les scandales en fonction du temps et de la longueur des jupes. Mmh. Et par exemple, au XVe siècle, les dames de l'aristocratie espagnole portaient une jupe longue, mais qui avait une forme de cloche, donc qui était très ample. Et en fait, cette jupe a été interdite et les femmes qui la portaient ou les tailleurs qui la concevaient risquaient l'excommunication.
Ouh, malheur.
Donc ça montre à quel point tout cela est très volatile par rapport au temps, au pays, aux règles sociales en vigueur, etc.
Oui, il faut vraiment contextualiser et pas considérer que ces données-là sont universelles et qu'elles s'appliquent à tout le monde. Alors on va écouter le témoignage de Lila May, qui a 13 ans, qui est en 4e dans un collège de Seine-Saint-Denis. Elle et ses amis ont adressé une lettre à la direction de leur établissement qui a un règlement stipulant qu'il ne faut pas porter de tenue décontractée et donc les filles n'ont pas le droit de porter de débardeur, donc là on n'en est même pas au crop top, et elle a également participé à la mobilisation du 14 septembre.
Bah, il y en a qui sont venus avec des pancartes, il y a des garçons qui sont venus en crop top, enfin du moins qui ont coupé leur t-shirt, des filles qui sont venues en jupe, en short, en débardeur. On n'a pas fait non plus de trucs assez randonnants, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, on doit rester quand même dans le non-agressif, on va dire. Mmh. Parce que sinon, après, on peut avoir des grandes conséquences. Et ce serait dommage.
Et qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction alors quand vous avez fait ça le 14 septembre ?
Bah, déjà, on s'est pris plein de remarques. Enfin, comme d'habitude, on commence à être habitué. Et
de la part de qui ?
Des surveillants, des professeurs, de tout l'établissement, tout le personnel de l'établissement. Surtout, je trouve perturbant, c'est que on a fait plusieurs lettres, plusieurs fois on allait parler, et ils nous écoutent pas. Ou alors, ce qu'on donne, on dirait pas qu'ils les lisent. Enfin, ils nous écoutent pas. Ils sont pas là pour... On dirait qu'ils s'en fichent, en fait. Nous pensons qu'en 2020, il est temps d'accepter que la majorité des femmes soient dotées de formes et qu'il faut arrêter de nous apprendre à les cacher. D'ailleurs, on a dit à certaines filles que selon leur morphologie, elles pouvaient porter certains types de vêtements ou non. Ces filles se sont senties discriminées. On ne choisit pas sa morphologie et l'éducation qu'on nous donne en rimatise crée pour certaines des grosses insécurités et tabous. Mmh. Et du coup, dans cette lettre, on dénonce les remarques qu'on nous fait et un peu le règlement qui n'est pas précis et que du coup, bah voilà. Bah, on dit surtout que c'est pas normal, parce que c'est surtout les filles qui ont qui commencent à avoir des formes qui se font remarquer, et on trouve pas ça normal parce que déjà un adolescent ou tout ça, ça commence à apprendre à son corps et non le connaître pas, et déjà se faire prendre des remarques, et même les remarques sont parfois très peu délicates et ça peut choquer et ça peut être très perturbant et embêtant pour l'élève. Mmh. Ils nous soutiennent vraiment, et surtout que dans le règlement, et les gens ils nous disent que si on doit s'habiller normalement, c'est pour le regard des garçons de notre âge ou un peu plus vieux. Sauf que je vais dire, ça ne les dérange pas. C'est pas que ça ne les dérange pas, mais genre c'est pas eux qui nous font du mal, c'est surtout les commentaires et les professeurs qui sont... Par exemple, une fille en débardeur, pour les professeurs ou les enseignants, c'est comme si nous, on était torse nu. Enfin, comme si les hommes étaient torse nu. Donc, on trouve pas ça logique. Enfin, normal.
Voilà, donc heureusement, la relève est là. Et alors, pour parler un petit peu d'histoire, pour faire un petit rappel historique, dans quel mouvement s'inscrit justement ce contrôle des corps des étudiantes, des lycéennes ?
Bah, j'ai envie de dire que ça fait partie d'une histoire très vaste de backlash et de répression des corps féminins, et c'est tristement récurrent dans l'histoire, ancienne comme récente, et en fait ce sujet visiblement hautement politique de ce que portent les femmes revient sans cesse, et d'ailleurs les règlements sur les vêtements ne datent pas d'hier. D'ailleurs, on vous propose d'écouter en 1960 ce que pensent les lycéennes des interdits vestimentaires en classe.
Je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur l'estrade et avec une règle venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou des joues à parterre.
Et quelle était la longueur réglementaire ?
Oh ben, c'était assez long, mais...
Bien au-dessous du genou ?
Oh oui, bien au-dessous du genou, oui. Et surtout pas de jupon parce qu'on pouvait voir nos cuisses alors.
Ouais, c'est croustillant, ça fait froid dans le dos. Et alors, plus proche de nous, en 2009, c'est une cinquantaine d'élèves du lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Étampes, dans l'Essonne, qui se sont vus reprocher leur tenue vestimentaire par des membres du personnel d'encadrement, qui sont donc entrés en croisade contre les shorts et les jupes. Aux portes du lycée, les surveillants faisaient le tri avec des remarques comme « Vous vous croyez en vacances ?» L'administration du lycée a justifié cet excès de zèle en arguant que le règlement intérieur a toujours imposé une tenue vestimentaire correcte. Donc là encore, les termes restent assez vague.
Oui, et puis en fait, il y a 1000 exemples comme celui-là. En fait, l'année dernière, dans l'Isère, il y a même une élève qui a été visée par une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire, donc ça veut dire comme si c'était vraiment un comportement intolérable, quoi, pour un débardeur jugé indécent. Voilà.
Oui, on se demande vraiment quelle menace et quel risque ça peut faire encourir à une population de porter un débardeur. Par exemple, un élève qui amènerait peut-être des armes à l'école, là, on pourrait comprendre qu'il y ait une procédure disciplinaire, qu'il y ait un danger ou de l'inquiétude. Mais là, vraiment, quel est le risque, quoi ? Est-ce que c'est un risque symbolique, un risque de perversion ? Qu'est-ce que ça raconte, en fait, cette polémique ? Bah, déjà, il y a le double standard vis-à-vis de ce qui est jugé décent, correct, acceptable quand on est une femme. Il faut aussi se demander quelles femmes et quelles filles sont visées, qui a tendance à être vue naturellement comme plus sexualisée. C'est souvent le cas, par exemple, des jeunes filles noires qui sont hypersexualisées très tôt à cause de l'héritage colonial qui perdure encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ne disposent pas dans la société du même capital de respectabilité que les autres. C'est ce qu'on appelle la misogynie noire. En plus de ça, il y a toutes les injonctions contradictoires, car la mode dite pudique, même si j'aime pas vraiment ce mot, est elle aussi taxée d'extrémisme. Des internautes ont d'ailleurs appelé à ne pas oublier la question de l'inclusion des femmes voilées au mouvement de protestation contre ces établissements, parce qu'en fait, ça découle du même sujet, c'est-à-dire la sanction des choix et des vêtements féminins, même si le débat pour le cadre de l'école, c'est plutôt celui de la question du port des signes religieux. Mais en tout cas, les logiques sociales dans la stigmatisation d'un vêtement féminin sont quand même très proches. Et je trouve que ça crée plutôt de la solidarité, d'ailleurs, de rappeler que les femmes voilées, comme les femmes en mini-jupe, sont traitées de la même manière et également stigmatisées, plutôt que d'essayer de diviser les femmes et de les opposer. Mais c'est vrai que des jupes longues ont été interprétées par certains établissements comme étant un signe religieux ostentatoire. Et certains ont parfois refusé carrément l'accès à des élèves. Ça a été le cas d'une collégienne à Charleville-Mézières qui a été renvoyée 2 fois de son collège en 2015. Mais évidemment, il y a eu beaucoup d'autres cas. Voilà.
Ouais, ça montre vraiment la continuité de l'absurdité, ce genre de stigmatisation, en fait. C'est ta jupe trop courte ou trop longue. C'est en fait des injonctions permanentes, un vrai continuum sexiste.
Ouais.
Et au milieu de tout ça, d'ailleurs, ce sont toujours les femmes qui trinquent, perpétuelles garantes de leur dignité, de leur décence, avec évidemment des gros guillemets, et de celles des autres, sans que les dominants, les adultes, les hommes, les ministres, remettent en question leur rôle dans la construction de ces normes. Et donc, il y a vraiment cette idée d'injonction contradictoire. Donc, dévoilez-vous, montrez vos corps. On rappelle que on parle même de prime à la nudité sur Instagram. Il y a une enquête qui est parue sur le sujet qui montre que les corps féminins dénudés sont davantage montrés que les corps habillés. Mais ne vous dévoilez pas trop, ne vous déshabillez pas trop, car vous n'avez pas le droit de vous appartenir. Et ce sont aux autres de juger de l'acceptabilité de votre mise, dont la définition change selon votre interlocuteur. Donc il y a quand même de quoi devenir dingue. Avec la menace de la sanction sociale, donc le slut-shaming, qui consiste à stigmatiser l'attitude ou le physique jugé provocant ou trop sexuel d'une femme, et l'idée que l'habillement aussi conditionne l'exposition aux violences. Donc on en a déjà parlé, donc c'est faux, il n'y a pas de lien entre tenue et violence sexuelle.
Oui, on le rappelle, il y a souvent des diagrammes assez drôles qui montrent les causes du viol. Et en fait, la cause du viol, c'est le violeur, voilà, il faut le rappeler. Alors l'enjeu, évidemment, c'est que c'est le corps des filles, hein, et pas celui des garçons, qui est un enjeu de contrôle social, puisque ce sont les futurs futurs utérus de la nation, ne l'oublions pas. Quand je dis que ce n'est pas celui des garçons, il faut quand même faire une exception, puisque le corps des garçons racisés est tout de même vu souvent comme un corps problématique. Quand ceux-ci sont d'origine populaire, s'ils portent des baggies ou des joggings, voilà, ils peuvent être aussi stigmatisés. De ce contrôle du corps féminin, en tout cas, découle beaucoup d'autres injonctions. Donc la culpabilisation des victimes, on l'a dit, le fait que la honte, la décadence des bonnes mœurs, la fameuse déconcentration des garçons, le vice arriverait toujours par l'entremise de la figure millénaire de la femme pécheresse qui porte sur ses épaules la vertu et la salubrité publique, puisque donc on se demande ce qui va se passer. Voilà, si les femmes s'habillent comme elles veulent, est-ce que la société va s'effondrer, l'ordre des sexes va être inversé, le chaos social va arriver, voilà.
Bah, en tout cas, c'est ce dont on accuse les femmes depuis longtemps. Et d'ailleurs, l'historienne Christine Barr, qui est l'autrice d'une histoire de la jupe, l'a rappelé. Dans une interview publiée dans Le Monde, elle rappelle que la dialectique pudeur versus érotisation anime toute l'histoire du vêtement féminin. Et que, en fait, la sexualisation du corps des jeunes filles, c'est tout autant la monstration du corps que son effacement. Et voilé ou dévoilé, le corps féminin est coupable. Car c'est celui de l'Ève tentatrice.
Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, car si vous le faites, vous deviendrez comme lui. Vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam.
Et elle ajoute que dans les années 60, la mini-jupe et le pantalon sont devenus tous les deux des vêtements emblématiques de la libération des femmes, ce qui montre bien que les vêtements n'ont que le sens que nous voulons bien leur donner. Et elle dit aussi que les jeunes filles qui revendiquent le droit à une libre disposition de soi et à érotiser leur corps si elles en ont envie, elles sont les actrices d'une révolution féministe qui est encore loin d'être terminée.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on nous serine en permanence que l'égalité est arrivée, c'est plus la peine de se battre, les femmes et les hommes sont égaux, etc. Et en fait, on voit évidemment que c'est pas le cas avec des nouveaux combats comme par exemple la PMA, mais que ce n'est toujours pas le cas avec des combats plus anciens comme justement les luttes vestimentaires pour les tenues. Donc c'est intéressant de voir comment ces questions anciennes sont aussi actualisées encore en ce moment, et comment effectivement, comme c'était déjà le cas au XIXe siècle, on est toujours prise dans ces deux obligations, à la fois d'exhibition et de pudeur. Et c'est aussi une manière, par le biais du vêtement et de la parure, de contraindre l'expression de genre à une conformité, puisqu'en fait, c'est un des processus de régulation sociale par les normes corporelles. On nous rappelle de cette manière constamment qu'on a un corps social et que notre corps, finalement, est aussi le corps de l'État. C'est ça qu'on dit quand on parle de tenue républicaine. Donc, il y a vraiment un sexisme institutionnel dans le sens où il est véhiculé par l'institution scolaire qui va fixer des limites arbitraires selon les époques et les politiques.
Et donc, tout ceci est corroboré par l'enquête sur la sexualité en France de Nathalie Bajos et Michel Bozon, qui est un peu une référence sur la question des pratiques sexuelles ou des représentations de la sexualité. Et donc, les deux chercheurs montrent bien que les jeunes femmes font l'objet d'une surveillance soutenue en ce qui concerne leur corps par rapport aux garçons. Et j'ai aussi retrouvé un article, en fait, du sociologue Michel Bozon, justement, qui s'appelle « Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes, le garçon sans frein et la fille responsable ».
C'est vraiment de ça dont il s'agit.
C'est très parlant, exactement. Et ça parle, en fait, de cette dichotomie dans les représentations de la sexualité des jeunes. Il explique les inquiétudes contemporaines à l'égard de cette sexualité-là. Et il dit que, en fait, ça met en avant un double standard de sexe et ça fonctionne comme un rappel à l'ordre de genre. Il dit, selon cette représentation, les jeunes femmes sont et doivent continuer à être un élément responsable et sexuellement modéré, et elles seraient les gardiennes privilégiées de la morale sexuelle, car elles seraient mues principalement par des buts relationnels et affectifs, tandis que les hommes, eux, seraient gouvernés par des besoins sexuels impérieux. Donc tout ceci est bien sûr faux, enfin ce sont des constructions, et Michel Bozon dit que ça tend à renforcer cette représentation des femmes comme agents civilisateurs des hommes.
Oui, et puis dès l'école, quoi, surtout.
Ah, donc, c'est incroyable. Et ça a bien sûr des conséquences, dont la première est que cette image, je le cite toujours, ne favorise ni l'égalité entre les sexes, ni l'égalité des désirs. On peut même dire que ça aggrave en fait les inégalités. Mm. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un sujet futile.
Oui, c'est vraiment une vision différentialiste qui s'exprime très tôt, donc dès l'école, qui est vraiment néfaste en fait. Et d'ailleurs, le contrôle médical du corps des filles et des femmes commence lui aussi dès l'adolescence. avec ce qu'on appelle l'invention de la puberté. Et d'ailleurs, on peut se référer à un texte de Laura Piquant qui a été publié dans la revue Travail, Genre et Société en 2015, qui s'appelle « Mesurer la puberté, la médicalisation de l'adolescence suisse 1950-1970 ». Je la cite. Étape de transformation rapide du corps humain, la puberté fait l'objet d'une attention soutenue des médecins, mais aussi, et de façon concomitante, des parents, des adolescents, adolescentes et de la société au sens large. Elle est au centre de protocoles de surveillance, d'autosurveillance et de gestion biomédicale explicite et implicite. La puberté entre donc pleinement dans ces politiques du sexe, esquissées par Foucault dans son Histoire de la sexualité, par lesquelles le sexe devient une cible centrale pour un pouvoir qui s'organise autour de la gestion de la vie. Focalisé sur le corps pubertaire comme corps reproductif en cours de fabrication.
Oui, c'est vertigineux.
Oui, ça a des implications en fait, qui sont plus grandes que ce qu'on penserait et qui sont réellement politiques en fait.
Oui, et d'ailleurs, pour parler un peu quand même des garçons, on peut dire qu'en miroir de tout ça, la féminisation, entre guillemets, de ces garçons est mal vue et sanctionnée parce que c'est renvoyé à quelque chose de, ouais, de, c'est ça, de féminin et donc dévalorisé socialement. Donc je pense par exemple au vernis, au maquillage ou éventuellement aux jupes. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour Alexis, un lycéen convoqué par sa CPE pour avoir porté du maquillage et des talons. Tout ça après qu'une parent d'élève s'est plainte de sa tenue. Et donc, on lui a dit qu'il devait avoir une tenue adaptée. Encore ce mot.
Le maquillage, ça m'est venu parce que de mon projet artistique avec une amie, elle m'a maquillée. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Et je me suis dit, bon, bah, Alexis, il faut qu'on le suive comme ça parce que ça te correspond. Personne ne m'a fait de remarques. Tout le monde me soutenait. Tout le monde me disait que c'était trop beau, que ça m'allait super bien. C'était vraiment la première fois que j'avais des problèmes. Suite à ce rappel à l'ordre, bah, du coup, j'ai posté ça sur Instagram. En une nuit, ça a tourné. Enfin, même moi, je ne l'ai même pas vu. C'est les gens qui m'ont envoyé des messages sur mes réseaux sociaux. Le matin, je commençais à 9h et j'arrive et là, je vois tout le monde maquillé. Clairement, seconde, première, terminale, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas.
Et surtout, il y a vraiment l'idée que l'école est un lieu de savoir, d'apprentissage, mais aussi un lieu qui va vous rappeler à l'ordre de la norme sociale et de la norme genrée, ce qui est évidemment pas écrit dans le protocole et dans le fonctionnement des institutions scolaires, mais ça fonctionne vraiment de cette manière-là. D'ailleurs, on le voit dès la petite enfance avec les garçons qui n'osent plus prendre des sacs à dos la Reine des Neiges, etc., quoi.
Oui, alors qu'on pourrait imaginer que une période de la vie, ouais, comme le collège, c'est aussi un moment d'expérimentation de son identité, peut-être de son genre aussi. Enfin, en tout cas, c'est moment où on découvre des choses et c'est vrai que de mettre une forme de pression et de répression à ce niveau-là, ça semble assez contre-productif, il me semble. Pour continuer sur les garçons, d'ailleurs, ces derniers ont soutenu le mouvement du lundi 14 septembre en venant en cours en débardeur. Mais il y a aussi des cas au Québec, ce cher Québec, où des garçons mettent des jupes pour aller à l'école pour protester contre des mesures sexistes.
Ouais, vive le Québec libre.
Ouais. Et à Londres, une école privée envisage d'autoriser les garçons à porter des jupes, justement.
Cool.
Dans un mouvement de plus grande acceptation des différents styles des personnes.
Oui, et tout ça, c'est aussi, pour y revenir, une normalisation des corps dans un régime donc de bicatégorisation des sexes, où il faut bien rappeler qu'il y a deux sexes distincts, sinon la société, encore une fois, risque de s'effondrer. Alors on peut se demander que font les personnes non-binaires dans ce marasme, puisque l'habillement des filles exciterait les garçons, c'est aussi de l'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des garçons qui sont queer, qui sont gays, qu'est-ce qu'on fait des filles qui sont lesbiennes, et qu'est-ce qu'on fait aussi de l'excitation des filles. Enfin, ça sous-entend que les filles ne pourraient pas être excitées. Qu'en tout cas, dans leur cas, ça ne serait pas un frein à leur apprentissage scolaire. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sous-entendus là-dessous.
Ouais, il y a une cruelle asymétrie là-dedans. Et d'ailleurs, cette définition de ce qui est décent, on peut dire que c'est vraiment à géométrie variable, aussi en fonction des corps. Donc, on va juger une tenue indécente aussi en fonction des normes corporelles dominantes. Et je pense, par exemple, en fait, aux jeunes femmes ou jeunes filles rondes ou grosses qui disent avoir le sentiment d'être plus souvent sexualisées et sanctionnées pour des tenues qui ne posent pas du tout de problème à des camarades de classe minces. Donc ça, j'ai trouvé plusieurs témoignages sur Instagram de jeunes filles, par exemple, qui disaient « J'ai porté un legging et on m'a sermonné alors que mes camarades minces portent le même legging sans problème. » Donc ça, c'est vraiment aussi une preuve de l'asymétrie, en fait, de des jugements sur les tenues.
Oui, alors est-ce qu'il faut pour autant avoir un débat sur le fait de rétablir peut-être l'uniforme ? Est-ce que celui-ci a des bénéfices ? Puisque quand on est ado, on a quand même toujours la volonté d'appartenance au groupe et la volonté de se distinguer en fait en tant qu'individu et d'affirmer son identité. Est-ce que c'est possible quand on a un uniforme ? Est-ce que justement, tu le disais, à cet âge-là, c'est pas le moment idéal pour s'habiller librement, pour expérimenter, pour essayer de trouver qui on est en fait ? Et en même temps, il y a aussi tout un imaginaire sexualisant autour de l'uniforme pour les filles avec la jupe systématique et le look écolière et écolière sexy. Quoi.
Ouais. Donc on ne sait pas où donner de la tête en fait.
Ouais.
Et une dernière question, ça me fait penser à la polémique autour du film Mignonne de Meymouna Doucouré. La question c'est, des filles qui s'habillent entre guillemets sexy, est-ce qu'elles répondent à une injonction à la sexualisation ? Est-ce que en fait on ne devrait pas s'habiller en crop top ou en décolleté ou que sais-je parce que ça serait une injonction sexiste ? Pour moi pas forcément, et je pense que les filles ont totalement conscience de ce qu'elles portent, et ce débat est hyper infantilisant en fait, comme d'habitude on dénie tout libre arbitre aux femmes et aux jeunes filles.
On a l'habitude. Et alors, pour parler un peu de notre expérience, toi, es-tu une grande habituée du crop top ? Je ne t'ai pas vue souvent, le nombril à l'air, mais...
Non, mais je l'ai beaucoup porté.
Ouais.
En gros, mes parents, globalement, m'ont laissé aller au collège maquillée, avec des t-shirts au-dessus du nombril, etc., y compris pour...
Waouh ! Quelle liberté incroyable !
Oui, je viens d'une famille catho, mais catho plutôt progressiste, mais en fait, j'ai envie de les remercier parce que eux, ils voyaient ça pour ce que c'était, c'est-à-dire un bout de tissu complètement inoffensif, et ils ont dû se dire qu'en fait me prendre la tête avec ça serait contre-productif, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, d'ailleurs, j'ai abandonné moi-même ces mini t-shirts quand ils étaient plus à la mode, et ça a traumatisé personne. Et en tout cas, chez moi, il y avait cette liberté-là, j'avais le droit à ça. Et ça me faisait d'ailleurs plaisir de mettre des crop tops. Je le faisais pas par obligation, enfin, ou en tout cas, sinon je devais suivre des modes, mais je le faisais parce que ça m'amusait. Et en revanche, j'ai été scolarisée dans un lycée catholique. Et donc, ça n'a pas trop...
C'est là que ça se corse.
Ouais. Et donc, c'est vraiment là, en fait, que j'ai expérimenté, en fait, cette tension et ce contrôle social sur mon corps. Donc déjà, dans le règlement, c'était tout à fait précisé. Donc débardeur interdit, décolleté interdit, épaules découvertes interdites, jupe autorisée uniquement sous le genou, en douceur. Et d'ailleurs, il y avait un surveillant particulièrement connu pour son côté autoritaire qui se faisait un devoir de veiller sur notre décence.
Ah, et ça fait vraiment vieux pervers, quoi, surtout.
C'est horrible.
Comme compétence.
Plusieurs fois, on m'a demandé en fait de mettre une écharpe ou une veste sur mes épaules. Et franchement, ça m'a toujours indignée. Je pense même que ça a contribué à bâtir mon féminisme. Donc merci. Donc, pour l'anecdote, cependant, les garçons non plus, eux non plus, n'avaient pas le droit aux shorts et aux bermudas. Et l'argument qui circulait, c'était que les poils des hommes excitaient.
Quoi, c'est incroyable.
Ouais,
donc du coup, bah transpirer des couilles en été, quoi.
Et donc ça, c'était complètement...
Les poils excitent les filles, mais j'ai jamais entendu ça.
C'est le mythe qui circulait, que c'était
complètement
délirant, mais au moins, derrière la mauvaise foi, ça sous-entendait qu'il y avait une forme de reconnaissance de notre désir, même si je doute que le personnel vraiment y croyait. Donc la définition de la tenue républicaine était vraiment aléatoire, et comme c'était le privé, on pouvait porter des médailles de baptême ou des croix de Jésus sans problème.
Bah oui, bien sûr.
Voilà, donc certaines personnes de l'encadrement portaient ostensiblement des crucifix autour du cou. Par contre, je doute que d'autres signes venant d'autres religions auraient été acceptés.
Bah non, faut pas déconner.
Dernièrement, en fait, à deux reprises, j'ai été houspillée dans la rue en Corse parce que je marchais de la plage à la maison en haut de maillot de bain et en me...
Dépoitraillée.
Voilà. Avec une serviette sur les hanches ou devant moi, enfin, je sais plus. Et en fait, c'était toujours cette même rhétorique. Donc, elle se croit à la plage, celle-là. Et
bah ouais.
Ou genre, t'es à Ibiza, ou enfin, tu te prends pour qui? Et donc, j'étais là, bah oui, en fait, la plage est à 30 mètres derrière moi, donc je rentre chez moi en courant.
Pas en pleine ville à Paris, quoi.
Et donc, ce qui me choque le plus, c'est le poids, en fait, de ces regards et la notion, ouais, comme tu disais, de dangerosité, de désordre qui est contre les tenues des femmes. Donc, en fait, de quoi ont peur les gens ? Et ça pose quoi comme problème de trouble à l'ordre public ? Qu'est-ce qui est dérangeant, en fait, dans mon corps ? Donc, moi, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'on peut pas plutôt engueuler les mecs assis sur des bancs qui harcèlent les meufs toute la journée ?
Ouais, c'est sûr.
Enfin, voilà, en fait, ça me rend ouf, ce double standard vis-à-vis des torses nus d'hommes désexualisés aussi. Moi, j'ai passé ma vie avec des colocs qui venaient au petit-déj torse nu, et en fait, j'avais envie de dire, mec, soit je peux faire pareil, soit tu mets un
t-shirt. Ouais.
Donc le mec, on lui dira peut-être de se rhabiller s'il est comme ça dans la rue, mais jamais on le soupçonnera de menacer la collectivité.
Mais cela dit, il me semble qu'il y a quand même des communes balnéaires qui ont instauré l'obligation de la tenue correcte en été parce que beaucoup d'hommes se baladaient justement torse-poil. Mais c'est vrai que là-dessous, il y a aussi l'idée de la panique morale qui viendrait de la plage et des corps dénudés qui serait une forme de contamination morale des bonnes gens et des bonnes mœurs. C'est intéressant et qui vient souvent l'été.
Et toi, Clémentine, ton expérience ?
Alors moi, j'étais dans un collège lycée public bourgeois, blanc, parisien, et j'ai aucun souvenir de m'être vraiment maquillée au lycée. En fait, je pense simplement parce que je ne savais pas me maquiller. C'était pas faute de vouloir essayer. Par contre, j'avais moi aussi un crop top porté avec un baggy dégueulasse bien bas sous les fesses, avec des Vans et un piercing au nombril. Ça, c'était en terminale. Moi, je me souviens pas qu'on m'ait fait de réflexion. Par contre, j'en ai plutôt eu... Enfin, le contrôle social venait plutôt de mes parents qui utilisaient toutes sortes d'arguments pour me dire « c'est moche, ta manière de t'habiller, tu vas attraper froid », alors qu'en fait, évidemment, c'était pas ça le sous-texte. Et du coup, on m'empêchait de sortir sans me donner réellement la justification. Et moi, j'ai relu récemment aussi King Kong Theory de Virginie Despentes et j'aime bien ce qu'elle raconte sur l'hyperféminité, parce qu'elle dit qu'elle est plutôt une femme très masculine à la base, et qu'en devenant travailleuse du sexe occasionnel, elle a éprouvé le pouvoir de l'habillement féminin sur les hommes. Et l'affolement que ça peut créer, je trouve ça... Enfin, je trouve qu'elle retourne bien le stigmate, en fait, dans ce cas-là.
Ouais, et encore une fois, ça, je pense que les femmes en ont conscience. Enfin, disons que c'est... On n'est pas des écervelés qui se rendent pas compte du langage que c'est, le vêtement. Du coup, on va à présent entendre le témoignage de Nelia Kessiri. Donc, c'est une jeune femme en situation de handicap qui a aussi vécu en fait des remarques à l'école sur sa tenue et qui parle, des doubles standards sur quel genre de corps on contrôle et comment ça se passe quand on se situe à l'intersection de plusieurs discriminations.
Je m'appelle Nelia, j'ai 15 ans, je suis influenceuse, donc pas mal présente sur Instagram et TikTok. Sur mes comptes, je parle pas mal de mon amputation, de mon quotidien, de mes adaptations, de ma mentalité, j'aide les gens. Et récemment, du coup, le 14 septembre, j'ai fait un post dédié aux tenues vestimentaires dans les établissements scolaires puisque j'ai subi une situation très humiliante, très embarrassante dans un établissement scolaire. Je suis retournée en cours en septembre 2018 après 2 ans de déscolarisation liée à mon accident dans lequel j'ai perdu ma jambe. Et du coup, j'avais pris énormément de poids à cause des médicaments, à cause de l'immobilité. Donc, ma mère avait tout simplement prévenu l'infirmière scolaire que je serais en short parce que je ne pouvais pas encore mettre de pantalon, que je ne pouvais pas marcher avec, que j'étais trop grosse. Et voilà, elle avait dit à ma mère qu'il n'y avait absolument pas de problème, que c'était normal, que j'allais pouvoir tout simplement faire ce qui me convient jusqu'à ce que je puisse perdre du poids et enfin mettre des pantalons. Donc j'arrive dans la cour le jour de la rentrée, je ne connais personne, tout le monde me regarde déjà et une surveillante vient me parler pour me dire que le short ça va pas être possible. Alors je suis confuse, sur le moment je lui dis bah, excusez-moi mais enfin, l'infirmière scolaire a dit oui à ma mère, elle me dit bon d'accord on va, enfin je passe quoi, bonne journée un peu, mais ça se voit que ça l'avait pas mal déconcerté. Et... lorsqu'on arrive en classe, la prof principale, voilà, fait l'appel, etc. Et vient le moment de lire le règlement. Et au moment où ça parle de la tenue vestimentaire, elle prend une voix, un ton et s'approche de moi comme si elle voulait absolument me descendre ou m'humilier sur la place publique. Et elle me dit « les shorts, n'est-ce pas ?» Et vraiment, en me regardant, donc forcément... Tout le monde me regarde. Déjà qu'il devait se demander pourquoi il y avait une unijambiste dans la classe. Je me fais afficher comme ça au bout de 10 minutes. Et bien que ça m'ait touchée, que je me suis sentie vraiment mal, vraiment seule et vraiment pointée du doigt, je lui ai répondu que c'était vu avec l'infirmière scolaire, que ma mère avait arrangé ça avec l'infirmière scolaire, qu'elle était totalement d'accord, qu'elle avait compris. Je pense juste qu'elle a mal retranscrit l'info, mais le fait est que la prof m'a dit... que c'était impossible qu'on ait dit ça à que l'infirmière ait dit ça, que elle verrait ça avec mes parents. Je lui réponds donc que c'est pas à voir avec mes parents, mais avec mon orthoprothésiste, tout simplement parce que
parce qu'en fait, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de ma prothèse. Et quand bien même, elle ne me croyait pas, comme si c'était un drame et comme si c'était la fin du monde que j'ai mis un short. Surtout comme si j'avais inventé quelque chose, quoi. Donc, je ne sais pas si c'était directement mon handicap qui dérangeait, si c'était vraiment le short, si c'était un mélange des deux. Parce que je pense que pour m'avoir dérangé d'une telle manière et m'avoir affiché, j'ai vraiment essayé de comprendre quoi, pourquoi ça engendrait ce genre de réaction. Et j'ai vraiment, vraiment pris sur moi, mais je serrais les dents. Une fois que l'heure était terminée, du coup, c'était le premier jour, donc c'est allé très vite, je suis partie avant tout le monde. J'ai allumé mon téléphone dans le collège et franchement, je les ai limite envoyés se faire aller voir parce que je me suis sentie tellement seule, tellement affichée dès le premier jour. Et lorsque je suis revenue, il y a eu des excuses, certes, mais au-delà de mon handicap et d'être affichée, j'ai toujours trouvé ça aberrant, en fait. L'histoire des tenues vestimentaires, des tenues convenables, parce que pareil, les débardeurs. Interdire les débardeurs parce que ça laisse apparaître les épaules ou le haut de la poitrine, c'est... Je trouve que au-delà d'une histoire, oui, de règlement intérieur agaçant, c'est vraiment une entrave à la liberté. Je comprenais pas pourquoi j'ai assisté et j'ai vécu ça.
Merci pour ce témoignage éclairant.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop.
Culture.
Alors, dans la pop culture, on a vu défiler des crop tops à gogo à l'époque, hein, dans le clip de Britney Spears, Baby One More Time. Mais il y en avait aussi chez les garçons dans le film de Steven Soderbergh, Magic Mike, et on le remercie pour ça. C'est vrai que c'est surtout dans les pays anglo-saxons en fait, où l'uniforme est souvent de mise pour les écoliers et les écolières. Et on a souvent, de manière récurrente, une scène où la lycéenne va changer d'habit ou les mettre dans son sac avant d'aller à l'école. Et il faut aussi rappeler cette scène culte dans le film Clueless entre l'héroïne court vêtue et son père. Voilà, on vous laisse écouter sa réaction.
You're not letting her go out like that, are you?
Cher, get in here.
What's up, Daddy?
What the hell is that?
A dress.
Says who?
Calvin Klein.
It looks like underwear. Go upstairs and put something over it.
Alors, dans le premier épisode de la troisième saison de la série Big Mouth, une série animée qui diffusait sur Netflix, les filles ont même organisé une slut walk. Dans son livre « Growing Up Absurd, Problems of Youth in the Organized System », le critique Paul Goodman écrit que les problèmes de jeunes sont en majorité des problèmes de garçons. Ce qui est le cas souvent dans la pop culture. On a quand même trouvé des exemples à l'inverse. Par exemple, dans le film « Virgin Suicide » de Sofia Coppola, dans lequel les parents décident d'enfermer carrément leur fille à la maison pour pouvoir dompter les humeurs féminines et les empêcher tout simplement de vivre librement leur vie ou de fréquenter des garçons. Le film est très beau et forcément ça se finit très mal.
À ton âge, on ne connaît pas encore les souffrances de la vie.
Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans.
Moi, le sujet m'a aussi rappelé en fait le documentaire d'Ovidie, À quoi rêvent les jeunes filles, qui était sorti en 2015. Et en fait, c'était sur les paradoxes de la supposée libération sexuelle et les nouvelles injonctions paradoxales dans les sexualités.
La génération de jeunes femmes qui a succédé à la mienne est la première vague de ce que l'on appelle les natifs numériques. Elle a grandi avec un ordinateur entre les mains, et cette révolution culturelle majeure lui a permis de développer un rapport au corps différent des générations précédentes.
Un mélange d'imaginaire pornographique et en même temps, par exemple, l'obligation de la conjugalité ou de la maternité, par exemple, qui reste très prégnante. Et je me suis aussi souvenue d'une scène d'un des romans de la rentrée littéraire, donc Chaviré de Lola Lafont. Donc dedans, il y a un débat, un moment, entre jeunes femmes sur la tenue des danseuses de cabaret. C'est le travail notamment de l'héroïne du livre. Et donc, en fait, elles discutent avec des militants de gauche, et on lui dit que ces tenues-là sont pas féministes, patriarcales, etc. Et elle, elle dit à ces filles-là que le seul moyen qu'elles ont trouvé pour se faire accepter dans leur sphère militante, c'était de s'habiller entre guillemets en garçon, donc avec des pulls larges, des baggies, etc. Et en fait, l'héroïne Cléo dit que mais qui décide ça en fait ? Enfin, qui décide de la respectabilité d'un vêtement, et est-ce qu'il faudrait être sur la scène du théâtre de la ville en dansant pour être respectable ? En fait, voilà, c'est quelque chose qui est construit socialement, et cette scène est très intéressante.
Alors, il y a aussi un film dont on parle toujours, c'est La journée de la jupe avec Isabelle Adjani, qui joue une prof qui continue à vouloir venir en classe en jupe, donc dans un lycée d'un quartier populaire, et qui finit un jour par craquer et par prendre sa classe en otage. Moi, je ne l'ai pas vu. Je pense que je ne le verrai pas.
Quel était le vrai nom de Molière ?
Vas-y, va niquer ta mère la pute !
Quel est quoi, là ?
Va niquer ta mère la pute ! Ah, mais arrêtez, madame, là !
Quel était le vrai nom de Molière ?
Madame Bergerac, il faut que nous comprenions ce que vous voulez. Je peux très bien comprendre que vous avez pété un câble, ça peut arriver à n'importe qui.
Ouais, voilà, donc je suis pas certaine qu'il faille prendre la peine de le voir.
Ouais, il faut plutôt aller voir Mignonne, encore une fois, hein, de Maïmouna de Couré, encore et toujours, dans lequel, en fait, les attitudes de jeunes filles, très jeunes filles d'ailleurs, qui dansent et qui sont dans une forme de sexualisation pour s'amuser, vont se faire huer et stigmatiser quand elles se produisent sur scène et qui sont touchées vraiment par l'opprobre, comme si c'était vraiment gravissime ce qu'elles faisaient. Donc ça interroge vraiment le regard, en fait, qu'on pose sur les jeunes filles.
Oh, mais j'attends grave, qu'est-ce que tu vois tous les likes qu'on a eus ? Vous savez où passe l'esprit du mal ? Ce sont ces femmes dénudées.
Ouais, le film est vraiment tombe à pic sur cette question-là. Et c'est comme si, en fait, il avait annoncé cette rentrée pour les collégiennes et les lycéennes. Le timing est assez incroyable. Et de manière peut-être un peu plus lointaine, la série 13 Reasons Why, qui se termine en ce moment là sur Netflix, débutait quand même avec le harcèlement d'une élève, d'une lycéenne, à cause du slut-shaming, donc d'une mauvaise réputation dont elle était victime sans avoir absolument rien fait.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf ?
Alors, cette semaine, est-ce qu'on a une recommandation culturelle ? Peut-être du côté de la Bretagne pour toi ?
Oui, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'ai découvert la BD Algue verte, l'histoire interdite, de Inès Leroux et Pierre Van Hove, chez Delcourt et avec la revue Dessinée. Et donc, c'est sur la toxicité des algues vertes sur le littoral breton et comment, en fait, des lanceurs d'alerte ont essayé de prévenir de décès suspects liés à ces émanations toxiques et comment ils et elles se sont heurtés à des pressions pour empêcher le scandale d'exploser. C'est hyper bien. Et toi ?
Ouais, j'ai toujours voulu le lire puisque moi-même je vais souvent en Bretagne et qu'il y a des algues vertes. Donc je veux bien que tu me le prêtes.
Carrément.
Moi, je voudrais recommander un pavé, mais ça vaut la peine. C'est Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. En fait, Tiffany McDaniel raconte l'histoire de sa mère, donc Betty, qui est une jeune fille d'origine Cherokee aux États-Unis. Il faut savoir que le livre est en lice pour plusieurs prix. Il a reçu le prix Fnac, le prix America. Et c'est une écriture sous forme de presque de poésie pastorale qui est vraiment très très belle, très onirique, qui parle à la fois du rapport à la nature et du racisme. Et vraiment, c'est pour moi aussi une découverte de la rentrée littéraire que je vous conseille.
Allô, allô,
allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ? Et alors, cette semaine, c'est Barbara qui nous écrit pour nous demander de lui conseiller un roman d'amour avec des personnages féminins incarnés et si possible garantis sans stéréotypes sexistes. Qu'est-ce que tu as à lui recommander, toi ?
Bah, en fait, récemment, c'est vrai que j'avais pas lu spécialement de roman d'amour, mais je me suis souvenue d'avoir lu le roman, en fait, de Chimamanda Ngozi Adichie, L'autre moitié du soleil. Donc, enfin, c'est très dur. Ça se passe pendant la guerre du Biafra. C'est la trajectoire d'une famille, mais aussi d'un couple. Et j'avais trouvé que ça mêlait totalement le thème de l'amour et de la guerre. Enfin, c'est vraiment un roman magistrale. Donc moi, j'ai pensé à celui-là.
C'est bien de rappeler qu'elle a écrit d'autres livres que Americana et Nous sommes tous féministes. Et moi, de mon côté, je voudrais recommander une histoire d'amour lesbienne qui s'appelle Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix-Allard. C'est sorti en 2018. On en a pas mal parlé. C'est aux éditions de Minuit. Et voilà, c'est l'histoire d'une passion assez, assez foudroyante, même si tragique. Voilà, donc on espère que tu trouveras ton compte dans ces deux livres-là.
On a parlé de Dans la forêt de Jean Eglant. Là, c'est plus sur l'amour filial et comment deux sœurs vont s'en sortir en étant retenues dans une maison dans la forêt quand le monde s'écroule autour d'elles. En plus, c'est très à propos en ce moment.
Oui, alors quant à nous, on a fait le tour de la question du crop top, donc n'oubliez pas de garder le nombril à l'air si ça vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court où on parlera d'élections américaines. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être bien référencés. Merci, salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Pauline Berduzier.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.